Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un aspect inhabituel à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. »
Alléluia, 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 Alléluia.
Que cet évangile efface nos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si j'ai le droit de faire une homélie, puisque je me suis rendu coupable d'homicide des horaires. Mais grâce à Dieu, l'éternité répare tout ça. Et alors, l'homélie, ça passe comme une lettre à la poste. Même si elle dure 2 heures, on a l'impression, j'espère, qu'elle ne durera qu'un seul instant. Alors là, simplement, je ne sais pas si. Vous me ferez un petit signe si jamais vous trouvez que la nuit est déjà tombée. Oui, simplement. Vous voyez bien que l'évangile de saint Marc qu'on a lu, qu'on vient de lire, est un évangile merveilleux parce qu'il ramasse, j'allais dire, toutes les résurrections, toutes les apparitions. Toutes les apparitions de Jésus ressuscité et tous les gens, et en fond, saint Marc est quelqu'un qui passe très rapidement parce qu'il sait très bien que les apparitions de Jésus n'ont aucune espèce d'importance. C'est ça qui est très intéressant dans l'évangile de saint Marc. Puis il passe toujours sur ce qui n'est pas important. Les apparitions, c'est pas important. Jésus est apparu, bon, ben, c'est entendu. Et il est apparu, bon, sous une forme inhabituelle. Et puis on l'a pas cru. Mais néanmoins, Jésus reproche ça. Jésus reproche aux apôtres de ne pas croire ceux qui l'ont vu et qui l'ont touché et ressuscité. Mais, dans les évangiles que nous avons lus depuis le jour de la résurrection, je vais vous faire remarquer une chose qui me frappe beaucoup depuis à peu près 2 ou 3 ans dans les Écritures. Je n'avais personnellement jamais vu ça. Mais je crois qu'on en avait, déjà essayé de regarder ce mystère de la résurrection ensemble. Ben, c'est qu'au fond, ben, Jésus il est ressuscité. Mais très curieusement, il n'est pas ressuscité, il est ressuscité devant personne. Personne n'était là. À un moment, il est ressuscité. Il n'y avait personne dans la tombe, il n'y avait personne là. Dans le sépulcre, dans le tombeau, il y avait personne, strictement personne. Il n'y avait même pas un chat, il n'y avait pas une petite souris qui était là. Et j'aurais voulu être une petite souris rentrée dans le sépulcre pour voir le mystère de la résurrection. Ben non, Jésus n'a pas voulu ça. Il n'y avait même pas un petit insecte. À cette époque-là de l'année à Jérusalem, il n'y a pas d'insecte. Il n'y a pas de ver, rien. C'est juste. Or, il est dit que le mystère de la foi s'enracine dans sa cause finale. Si nous ne croyons pas dans le témoignage de la résurrection, notre foi ne sert à rien. Si nous croyons que nous aimons Dieu, que nous obéissons aux anges, que nous obéissons aux voix angéliques, aux voix célestes, aux voix divines, aux voix que j'invente, c'est pas du temps, c'est pas bon. Que, ouais, à ma voix, si vous préférez. Bon. Et puis que je ne crois pas à la résurrection du Christ, c'est comme si je soufflais dans un violon. Parce qu'un violon, c'est pas un instrument à vent. C'est moi encore. Si je souffle sur un violon pour faire marcher le violon, ça ne marche pas. Ça sert à rien. Alors tu peux souffler très fort et la corde vite, mais là, vraiment, avoir un souffle pour lui. Ça sert à rien. Or il est dit, depuis le début de la Genèse, de la Torah avec Moïse, et puis ensuite encore dans l'Apocalypse, et dans tous les mystères de la loi, de la révélation, quand l'Esprit Saint révèle dans l'Écriture Sainte ce qu'il est, eh bien il révèle qu'il faut deux témoins pour rappeler de ça. Aucune chose ne doit être attestée divinement comme vraie qu'en présence de deux témoins. Alors, on se pose toujours la question, et je me suis posé la question, et vous vous posez la question, et nous nous posons ensemble la question, mais où sont les deux témoins de la résurrection? Les deux témoins de la résurrection qui nous sont donnés, j'allais dire, dans la révélation, que l'Esprit Saint a bien voulu donner au monde, vous voyez? Eh bien, si vous regardez bien, vous vous rappelez de ça, il y a le suaire, c'est le fameux suaire, le linge qui enveloppait le corps de Jésus, ce suaire qui avait été fabriqué par la femme, parce que vous savez que dans la Torah, parmi les 613 préceptes, c'est la mère de famille qui fait les linges pour la sépulture, c'est elle qui enveloppe les morts. Nous avions la dernière fois, ils ne sont pas là, mais des amis où nous avions une là, qui était là devant moi, je m'appelle son prénom, bon. Mais sa mère est à la synagogue à Montpellier, et bien c'est elle qui s'occupe des morts. Elle respecte encore ce précepte de la Torah, vous voyez, c'est toujours des linges, certains aromates, etc. On pourrait lui demander du reste, ça aurait été très beau qu'elle nous explique un peu comment la Vierge préparait ça. C'est encore aujourd'hui très vivant dans la synagogue, vous voyez. Eh bien, le linge, c'est le travail des mains de la femme, de l'Immaculée, de la Vierge. Le premier témoin de la résurrection, c'est le travail de la femme. Le suaire est là pour qu'on repère cela. Le deuxième témoin, celui qui a touché physiquement l'instant de la résurrection, c'est le monde minéral. C'est le monde minéral. C'est vraiment le rocher, le roc, l'aspect le plus physique de la matière. Ça. C'est génial. J'ai voulu expérimenter, moi, ce que Jésus avait vécu le jour de la résurrection. Et alors, je le savais peut-être, je voulais peut-être dire quelques-uns d'entre vous, je me suis mis, on s'est laissé enfermer dans le Saint-Sépulcre à clé. Et du coup, on était dans le Saint-Sépulcre. Alors du coup, il n'y a plus les centaines de milliers de gens et puis tous les prêtres orthodoxes qui sont là, qui disent tu as le droit de toucher le Saint-Sépulcre à condition de donner 100 balles. C'est un truc infernal. Bon alors, là, il n'y a plus de pope, il n'y a plus rien. On était tout seul dans le Saint-Sépulcre. Merveilleux. Et je me suis allongé sur la pierre d'en bas. Elle est restée là, telle qu'elle était. Jésus avait été posé sur un truc rugueux, vous savez, c'était pas lisse du tout. C'était... Et je me suis mis là pendant une heure. Je me suis dit, tiens. Pour toucher le rocher, le monde minéral, qui est le témoin physique de la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous voyez, on lit dans les épîtres, regardez comme c'est curieux. On lit dans les épîtres depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à encore aujourd'hui, Pierre et Jean, qui vont au temple. Curieux ça aussi, parce que ça se prolonge ce témoignage. Pierre, tu es Pierre, tu t'appelles Simon, tu es mon roc, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre représente le roc, le minéral, au point de vue mystique, l'infaillibilité pontificale, le point de vue très concret, très physique, très rebutant, très rugueux de l'institution du corps mystique de l'église. Et puis il y a Jean, qui est comme le petit enfant à qui l'Immaculée a été confiée. Le travail de l'Immaculée associé au travail de Jésus crucifié, voici ta mère. Le travail de la mère qui constitue la spiritualité janique et qui est une mystique d'amour et une mystique de sainteté pure qui va jusqu'au bout. et qui n'est pas la dimension de la sainteté de Jean. Jean, c'est quelqu'un qui refuse d'être un saint, qui refuse d'être un apôtre. Il veut être formé dans l'Immaculée Conception. Il veut être changé en elle. Il veut être assimilé à elle. Il veut être, comme dit Maximilien Kolb, transsubstantié en elle. Complètement elle. Le roc. Madeleine, elle a rien vu du tout. C'était qu'une apparition. Et une apparition, c'est pas Jésus ressuscité. N'oubliez jamais ça. Parce que si vous avez un jour une apparition de Jésus ressuscité, à supposer même que ça vienne de Dieu, je vous le dis en vérité, ça n'est pas Jésus ressuscité. Et je le dis en vérité, je vous le dis. Ça n'est pas Jésus ressuscité. C'est une apparition. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus ressuscité? Ça ne veut pas dire que il était mort, puis allez, comme Lazare, hein? Lazare, debout! Et voilà, Lazare, il fait mort, hein? Tu serais évanoui. Et même moi. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité Lazare. Mais Lazare, il est mort une deuxième fois. Il est mort après.
Oui.
Bon d'accord, il était mort ici. Il s'est relevé, il est devenu vivant, il a continué à vivre. Mais après, il est mort encore. Mais son corps, il est encore dans la terre. Il est en France même, je sais où c'est. Et d'un seul coup, l'instant d'avant, il est là. Et l'instant d'après, il est physiquement, corporellement, partout où il y a de la matière. La résurrection, c'est comme un rayon laser qui traverse l'espace et le temps et qui fait que le corps physique, humain, palpable de Jésus traverse tout les temps, tous les lieux limités par le spatio-temporel. Il traverse physiquement, comme il a traversé les portes du Cénacle à la résurrection, sans allumer. Il est passé à travers toi, mon pote. Il passe à travers nous, mais attention, pas à travers mon âme, pas à travers mon esprit, pas à travers mes énergies. Ça, mes énergies n'ont rien rencontré du mystère de la résurrection. Mais mon corps, ce qu'il y a le plus miracle physique, matériel dans mon corps, ça était le réceptacle du mystère de la résurrection. Et quand je prends ma peur dans mes bras, il y a des gens qui cherchent des reliques tout le temps. Oh, j'ai une relique, c'est merveilleux, j'ai une relique. Médaille, c'est bien. Très bien, je trouve ça. Mais des reliques, vous voyez, la relique d'un saint, un bout d'os, c'est bien, c'est un bout de cheveux. Mais la relique, c'est toi. C'est ton corps qui est une relique. Puisque ton corps a été traversé physiquement, matériellement, réellement, par la résurrection, le corps ressuscité du Christ. Et tu portes le mystère de la résurrection. Le mystère de la résurrection a transformé le monde minéral. Il l'a transformé physiquement, de l'intérieur, réellement, une révolution cosmique. Le monde s'est ouvert, d'un seul coup, au-delà de ses mesures. Il appartient à un autre univers qu'à son propre univers cosmique. Le monde minéral, celui qui n'aime pas son corps, ne peut pas comprendre ça. On atteint le corps ressuscité du Christ, la très sainte Trinité de Dieu, par le corps. Et Jésus dans l'Eucharistie ne cesse de le dire, ceci est mon corps. Il donne Dieu à travers le corps. En français, ça colle pas. En grec, c'est beaucoup plus fort. Puisque en grec, on dit sarx. Mais c'est corps. On dirait en français la différence entre la chair et le corps. Jésus ne dit pas ceci est ma chair. La chair, c'est quand le corps est vivant. C'est quand le corps est plein d'énergie, plein de vie. C'est la chair. Mais en grec, le corps, c'est-à-dire le corps, mort, le cadavre, minéral. La vie végétative, disparue. La vie sensitive, animale, sentimentale, disparue. La vie spirituelle, disparue. Il n'y a plus que le corps. Mais pourquoi est-ce que Jésus a dit ? Il leur dit qu'une seule chose. Il leur reproche leur incrédulité. Voilà ce que saint Marc dit. La seule chose qu'il dit. C'est quand même très fort. Leur endurcissement. Ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis leur dit la seule phrase qu'il dit de Jésus ressuscité. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. C'est le cosmos tout entier qui change de signification. Mon corps, qui est un petit cosmos, change de signification. L'aspect physique de mon corps, je n'atteindrai pas Dieu par le cœur, par l'esprit, par le sentiment. Ça, tout ça, ce sont des illusions. Des illusions d'optique, bah, qui peuvent aider. C'est du grand lyrisme, c'est beau, c'est pas mauvais, on ne le méprise pas. Mais si tu ne prends que ça, tu avorteras. Tu atteins la résurrection du Christ par le point de vue du corps. C'est pour ça qu'on a un seul corps. Notre âme, notre personne, notre vie ne connaît qu'un seul corps. C'est toute l'écriture. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous n'avons qu'un seul corps. Nous ne connaîtrons pas plusieurs enveloppes physiques. C'est absurde. Parce que notre corps, tous les corps, à partir du moment où ils ont été individués dans une substance, ils sont réellement et substantiellement traversés par le mystère du corps ressuscité du Christ, et donc ils sont indivisibles et irrenouvelables. C'est très fort. Et le deuxième aspect, le deuxième témoin, voyez, ça veut dire quoi ça, que c'est le corps? Ça veut dire que tout simplement, voyez, je peux vivre de l'union, ce qu'on appelle l'élargissement de la conscience, vous savez, bon, l'élargissement de la conscience. Tu te mets là, tu t'arrêtes, tu te dis, voilà, position yogi merveilleuse, tu te concentres sur toi-même, tu habites bien ton corps, et puis, tu devient le réceptacle de tout le monde cosmique, de toute la création, tous les corps, toute la matière qui vient de se réfugier en toi. L'unité du monde et l'unité en toi, ton être, se réunissent dans une seule unité et ça y est, tu es le maître du monde, l'horizon du surhomme est apparu à l'horizon de l'arc du réalisable. Tu es devenu le maître et le Dieu. Ça, c'est la nouvelle spiritualité. C'est une spiritualité ésotérique, gnostique, qui est une spiritualité d'inversion. Mais effectivement, je suis effectivement le réceptacle de tout ce monde cosmique à travers moi par cette voie d'accès. Pour des raisons sur lesquelles je ne voudrais pas m'étendre maintenant, parce que c'est quand même une omélie, c'est pas un même enseignement. C'est, bon, la deuxième voie, celle que, qui fait que j'aboutis, non pas dans le repli sur soi d'un cosmos, dans mon petit cosmos qui est à moi, dans l'unité des deux et la diffusion d'une unité, d'une harmonie parfaite, hein, mais au contraire, j'aboutis dans l'unité incréée et éternelle de la gloire de la très sainte Trinité, le seul moyen. C'est passé d'abord par la médiation du corps ressuscité du Christ. Alors je m'arrête, par la foi, je réalise que le corps ressuscité du Christ, le Jésus ressuscité, et mon corps habite le même lieu. Jésus ressuscité à l'instant de la résurrection me traverse dans le mystère de la résurrection physiquement. Dans mon corps, c'est pas une impression, c'est une réalité substantielle, actuelle, ce qui est tout à fait différent. Et je réalise cela par la foi. Par la foi.
Par la foi.
Par la foi.
Par la charité, par l'amour, je brûle de la résurrection du Christ.
Mais le corps ressuscité du Christ, quand il traverse mon corps, traverse ton corps, son corps, ton corps, tous les corps de tous les temps, tous les corps sortis de la main du Créateur, depuis le début de la création jusqu'à la fin. Et donc, je porte tous les temps et tous les corps et tous les lieux dans le corps ressuscité du Christ. C'est dans le corps ressuscité du Christ que je porte tous ces corps. Mais comme le corps ressuscité du Christ fait éclater toutes les limites de cet univers, alors à ce moment-là, je n'appartiens plus à cet univers. Je suis d'un autre monde. Je suis du monde qui est avant la création. Et j'appartiens au monde de Dieu. La première voie mène à l'engloutissement dans le centre d'un monde qui se replie au niveau des puissances intermédiaires, qui se replie, qui s'effondre sur lui-même, et c'est l'enfer. Et la seconde voie mène au mystère de la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, toujours il vivra. C'est pour ça, annoncer cette nouvelle à toute la création. Vis de la résurrection dans ton corps et annonce cette nouvelle à toute la création. Toute la création, si tu vis de la résurrection, toute la création est là et toute la création, du coup, vient resplendir dans l'éternité des origines et de la fin éternelle de tout. Voilà pourquoi le premier témoin de la résurrection, c'est le roc, c'est le minéral. Pour qu'on ne se fasse aucune illusion sur le fait qu'on approche la perfection par le point de vue psychologique, le point de vue de ce qu'on ressent, le point de vue de nos opinions, le point de vue de nos impressions, le point de vue de nos manières de voir la chose. Le deuxième aspect, c'est pas notre manière de voir la chose, c'est la manière dont Dieu révèle que c'est. C'est pour ça que c'est le mystère de Pierre qui révèle de manière infaillible la doctrine de Dieu qui ne vient pas des hommes. C'est pour ça que c'est Pierre après dans les Actes des Apôtres. Deuxième témoin, le suaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qui est le suaire? C'est très fort l'histoire du suaire quand même. Le travail de la femme. Jésus, le plus grand travail qui a été fait sur la terre, c'est celui que je viens de vous expliquer. C'est Jésus crucifié qui reprend tout ce qui existe. Tout ce qui est sorti des mains du Père, du Fils, du Saint-Esprit dans la création, du début jusqu'à la fin du monde, qui le reprend dans son corps ressuscité pour lui donner une forme nouvelle, une lumière. Je suis la lumière du monde. Il donne un nouveau visage, une ouverture sur la lumière, née de la lumière, une éternité incréée, d'une inspiration éternelle de gloire. Le travail de Jésus crucifié, ce qui a transformé la matière pour lui donner une nouvelle signification, une nouvelle forme, une nouvelle splendeur qui n'est pas naturelle. Le travail de la femme, le travail de la femme, le travail de Marie, quand Jésus est mort et que dans le grand sabbat, il est déposé dans le tombeau, dans le grand sabbat du samedi saint, dans le grand repos du Père, du Dieu et du Fils et du Saint-Esprit, l'onction de Jésus qui enveloppe le monde depuis la création et le principe et jusque dans sa fin, l'onction du Messie qui enveloppe le corps cadavérique du Christ, s'est emparé de la femme, du corps de la femme. Mais le corps de la femme n'est pas un corps cadavérique. Le corps de la femme est un corps bien vivant. Et la croix de Jésus, avec tout l'aspect redoutable de cette souffrance de la crucifixion, de l'arrachement que constitue le mystère de la croix, qui ne pouvait être supporté que par quelqu'un qui était bandé par la substance même de Dieu. Cette croix vient se planter dans le corps de Marie. Vous avez vu le dernier Nashi du peuple d'Israël, Siméon le prêtre, le grand prêtre. Dans le chapitre 2 de Saint-Luc, un glaive te transpercera l'âme, de part en part, totalement, substantiellement, père, trans, ipit, gladius. Et son corps, son cœur, a été blessé
que j'ai mal, mon fils souffre. Mais non, c'est pas sentimental. C'est une blessure physique. Vous savez, tous ceux qui vivent cela dans l'église de Jésus, comme par exemple Sainte Thérèse d'Avila, vous savez que Sainte Thérèse d'Avila, oh ben, elle a été connue, cette transverbération physique du cœur. Sainte Thérèse d'Avila, 20 ans avant sa mort, ben, le chirurgien, à cette époque-là, il ne s'était pas gêné, à sa mort, oui, comme le couteau, le cœur. Puis effectivement, de part en part, le cœur de Sainte Thérèse d'Avila, et puis il y avait les cicatrisations, les médecins étaient capables de voir que les cicatrisations qui duraient plusieurs dizaines d'années, et elle vivait avec un corps qui, physiologiquement, était mort. Mais, si Sainte Thérèse d'Avila, on ne l'a pas connu, mais moi j'ai connu, je ne vais pas vous citer, j'en connais au moins 5. J'en suis sûr que c'est vrai. Ils sont encore vivants. Hein. Je connais 5. Leur cœur est mort, physiologiquement. C'est pas si rare que ça, vous savez. C'est très fréquent. Pour ceux qui vivent les sacrements. Pour ceux qui vivent dans l'illusion de « Ah, j'aime Jésus », non, ça, ils ne connaissent pas ça. Ça ne se plante pas jusque dans leur corps. D'ailleurs, leur corps, ils s'en fichent. Ils pensent que tout se fait par l'âme. Mais non. C'est Plotin et les gnostiques qui disent que tout se passe par l'âme. Le Christ dit « Ça se passe par la médiation du corps et de Dieu ». Et si Marie continue de vivre et ne meurt pas, c'est uniquement parce que c'est Dieu qui continue à la faire vivre. Dieu seul. C'est ça le mystère du suaire. C'est que le travail de la Vierge, le travail de la femme dans le grand samedi saint, c'est un travail de souffrance, de croix. J'accepte d'être brûlé, d'être écrasé peut-être par le mystère de la croix, mais je sais que Dieu est là. Et que du coup, je commence à vivre. Ça, c'est le travail de la Vierge. On appelle ça le mystère de compassion. Eh bien, le deuxième témoin de la résurrection, c'est cette blessure mortelle dans le corps de la femme, dans le cœur de la femme, de Marie. C'est vrai, elle n'a pas eu besoin de l'apparition. Parce que c'est le cœur de Jésus qui est physiquement présent dans sa poitrine à travers cette blessure du cœur. Ça, c'est tout le mystère du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui montre ça. Comment Marie a vécu de l'instant du samedi saint à l'instant de la résurrection. Vous avez 20 chapitres qui expliquent ça. C'est la révélation sur le mystère de l'Immaculée Conception qui vit de l'instant de la résurrection. L'agneau de Dieu. La plaie, les 7 sauts, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 7 tonnerres, un silence d'environ une demi-heure, la mer de cristal, la prédestination, les 7 sauts, les 7 visages glorifiés et broyés du corps mystique de Jésus enfanté par la Vierge. La plongée de Babylone la Grande, dans les eaux, Marie écrase la tête de Babylone à travers ça. Et Marie, dans la souffrance, si vous voulez, inhumaine, infiniment inhumaine, de sa compassion, j'allais dire, c'est le cœur de Jésus qui bat dans sa poitrine et elle meurt et pourtant elle continue de vivre de par Dieu. De par l'Esprit Saint, de par le Verbe, de par l'onction messianique du Christ qui, elle, est toujours vivifiante. Et ce qu'il y a de formidable, d'extraordinaire, de prodigieux dans le mystère de la résurrection, c'est qu'elle n'a pas eu besoin d'apparition puisque forcément cette plaie qui était dans son cœur est devenue glorieuse à l'instant de la résurrection. Elle n'avait pas besoin d'une apparition. C'est les deux seuls témoins. C'est les deux seuls témoins de la résurrection. Il faut réfléchir beaucoup à ça. Les deux seuls moyens de vivre directement le mystère de la résurrection. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est révéler. Cherchez tous les autres moyens. Si vous en trouvez un autre, je vous en supplie, venez nous le dire. On ira le dire au pape et il fera une nouvelle encyclique. Et on pourra faire une nouvelle religion. C'est merveilleux. On aura beaucoup d'argent. Et maintenant, le mystère de la résurrection nous rend bons. Il nous rend encore plus pauvres. Marie, elle avait encore, quand Jésus était là, regardez Marie-Madeleine, quand il était encore là dans le sépulcre, il était encore là. Et quand Marie-Madeleine dit, ils m'ont pris mon corps. Et l'Immaculée, vous ne trouvez pas qu'elle n'était pas plus attachée au cœur de Jésus, au cœur sacré de Jésus, au corps sacré de Jésus qui porte l'aspiration de la très sainte Trinité que Marie-Madeleine? Elle est encore plus pauvre après le mystère de la résurrection. Et c'est en même temps un mystère de jubilation. Mais c'est un mystère de jubilation, voyez bien, c'est un mystère de jubilation parce que c'est tout le monde cosmique qui est, j'allais dire, donné à Dieu à travers le corps ressuscité du Christ, à mon corps. Je ne peux pas recevoir dans mon corps toutes les potentialités de résurrection et de glorification du monde cosmique sans la médiation du corps du Christ. Sans Jésus, c'est impossible. Impossible. Et celui qui pense y être arrivé, je vous en supplie qu'il vienne me voir. Il m'intéresse. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je fasse peut-être comme Jean et Pierre. Je rentre dans le temple. Après la résurrection, Jean et Pierre rentrent dans le temple. Ils guérissent l'aveugle qui ne voit plus. Nous, on ne voit pas où est la résurrection. Voyons où est la résurrection. Il guérit le paralytique et fonçons dans le mystère de la résurrection. Et rentrons au cœur même du temps, du Saint des Saints. Et rentrons dans le mystère de la résurrection. Et là, comprenons que toute l'humanité peut nous étonner si je vis la résurrection, si je suis assimilé par la foi au mystère de la résurrection. Jésus ressuscité n'est plus à un endroit particulier. Il est partout et de tous les temps. Et de tous les lieux. Et à ce moment-là, je peux avec lui recevoir tous ceux qui ne rentrent pas dans le Christ par la foi. Et toutes les plantes et toutes les fleurs deviennent mon frère, deviennent ma sœur, et tous les animaux deviennent mon époux, mon bien-aimé. Et Jésus ressuscité vers le maintenant me parle à travers une fleur. Je suis passé à travers la fleur. Et la vie, je suis la résurrection, et la vie. Et la vie, c'est de vivre, de me mettre à la résurrection, non pas à ma mesure ce que je comprends, mais à la mesure de l'Immaculée, à la mesure de la plénitude de grâce de la Vierge. À la mesure de la plénitude, de l'immense plénitude de sainteté de la Vierge. Je ne peux plus accepter d'être un saint. Moi, Saint François d'Assise. Non, Saint François d'Assise, c'est pas assez. Il faut que ce soit l'Immaculé. Surtout qu'on se rapproche de la fin des temps. Et celui qui ne vit pas la sainteté comme l'Immaculé l'a vécu, avec toutes les exigences que ça comporte, cette plénitude de confiance absolue, et cette maternité catholique, universelle, totale, substantielle, actuelle, dans nos prières, à ce moment-là, vous voyez, c'est de ça qu'il faut que je vive. Voilà ce que nous apprend le mystère de la résurrection. Finir que deux témoins, c'est le roc, c'est le minéral, c'est le suaire, le travail de la Vierge. Voilà le sandwich merveilleux de la résurrection. Je suis coincé entre le corps ressuscité du Christ et le cœur blessé et glorieux de la Vierge dans l'Assomption. Alors à ce moment-là, je vis la résurrection. Voilà ce que nous allons demander à Jésus à travers le mystère de l'Eucharistie de vivre. Nous allons en même temps prendre les blessures de tous ceux qui continuent à souffrir le mystère de la croix. Et qui sont on donne le téléphone, il y en a beaucoup qui ont eu une curiosité. Qu'est-ce qu'on lui a dit dans le petit papier? Et c'est une petite stigmatisée qui en ce moment est en train d'agoniser. Donc on va prier pour elle. Les médecins ont essayé de la casser. Parce que c'est un médecin qui s'appelle Lacroix, c'est pas un médecin, c'est joli d'ailleurs, qui a dit une fausse mystique. Alors il faut enquêter des antidépresseurs. En mettant des antidépresseurs, des neuroleptiques, des trucs comme ça, il a affirmé que ça n'en était pas. C'est sous prétexte de soigner une endométriose. Donc, oui. Il a mis, vous savez, les médecins, bon, je ne veux pas accuser certaines organisations, ils le font systématiquement dès qu'ils ont affaire à des mystiques, mais des neuroleptiques, parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, tu mets une chose trappe. Parce que ce qui est vécu surnaturellement dans l'agonie, le sang coule de Jésus, les plaies, le cœur de Jésus. Alors, en faisant ça, tu mets une trappe, elle s'ouvre, et elle descend d'un point de vue psychologique, et tout ce qu'elle vit, qui est encore supportable, à la limite, si je le vis, au point de vue spirituel, j'ai une maturité qui reste solide. Je ne fais pas attention à mes impressions. Mais si j'ai dès que j'ai des neuroleptiques, des antidépresseurs, tout ça, je suis forcément à vivre au niveau psychologique. Et donc, toute cette espèce de crucifixion va se déployer. Alors là, c'est la mort. Et on tue, c'est ça qui est merveilleux, on tue en même temps la personne, et en même temps on tue la mystique. Là, c'est ce qui est arrivé. On est en train de se battre depuis 10-12 jours pour qu'elle ne meure pas. En ce moment, elle est en train d'agoniser. Bon, on va prier pour elle. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est notre cœur qui saigne avec elle. Et le cœur de Jésus, lorsqu'il saigne, vous voyez, c'est ce qu'on a dit dans le psaume, quand je disais le psaume, j'ai pensé à elle tout à l'heure. Je disais, ben voilà, Seigneur, merci, tu m'exauces toujours. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur se lève. Il m'a frappé, Seigneur, il m'a frappé, mais il ne me livre pas à la mort. Et je pensais à elle, c'est bien, vous voyez, elle souffre pour nous, elle souffre avec nous. Et elle souffre d'abord avec Jésus. Et c'est Jésus qui est visé à travers cette espèce d'homicide de tous les mystiques. Je suis sûr que ce n'est pas la seule, j'en connais beaucoup qu'on a laissé tuer comme ça. C'est les médecins qui font ça. Parce que les médecins se croient tout permis. Ils se croient permis de tuer des gosses dans le ventre de la mère. Ils se croient permis de tout. Ils se croient permis de substituer au Créateur pour la conception d'un être humain. Et ils vont faire des êtres humains qui n'ont pas été originés dans l'amour de l'homme et de la femme. Ils vont faire des monstres métaphysiques. Ils se croient permis de choses que Hitler n'a pas osé faire. Il avait la tentation, mais il n'a pas osé. Il avait la tentation, il a dit, mais il n'a pas osé. Le démon est à l'œuvre. Tuer l'homme d'abord dans l'enfant, dans l'embryon, dans la conception, dans l'amour et dans la vie. Il veut tuer l'homme dans son corps initial et dans les mystiques. Il a la haine de la résurrection. Il dit ce n'est qu'un corps. Mais le corps, c'est le corps de l'homme. C'est le corps de Dieu. C'est le corps de Jésus qui est là, qui l'a traversé. Et alors, s'il ne peut pas réfléchir, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est son corps. C'est le corps. Le corps. Oh, il aura une nouvelle réincarnation. Imbécile. Te laisser avoir par le démon. Tu n'as pas le droit d'être idiot. C'est le corps, vous voyez, qui est visé. C'est très beau dans l'Apocalypse, on le voit. Le corps et la vie. Nous allons demander à Jésus, elle a ressuscité, si vous voulez nous reprendre là-dessus. Qu'on ne soit pas jamais complice. Et le seul moyen, c'est d'être fidèle au sacrement. Et vivre de la sainteté de la Vierge, c'est-à-dire de la grâce. Et de rester dans la grâce sanctifiante. Ça, c'est la grande mystique, ça, que Jésus a voulu. Il a institué à travers le corps mystique de l'Église. Et vivre du corps à travers l'Eucharistie. C'est le seul moyen. Restez fidèle à ça. Je vous supplie. Restons fidèles à ça. Même si c'est dur, ça ne fait rien. Alors à ce moment-là, c'est le monde entier qui échappera à la griffe du dragon, à 7 têtes et à 10 cornes. Allez,
et croyons.